planète n'arrête pas de tourner parce que c'est le week-end. Restez informés en écoutant Que Québec se lève.
Avec Paul-Raphaël Charon et Pascal CV.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Au FM 93.
FM 93. Ça me parle. Ça me parle.
7h01, dimanche le 26 mai 2019. Bonjour à tous, bienvenue au FM 93. Mon nom est Paul-Raphaël Charon. Je suis spécialement en compagnie de Kevin Dupont. Bonjour Kevin.
Hey, salut Paul.
Et Pascal est absente. Pascal est en vacances. Sa Majesté la Reine, Pascal Dupont.
Comment?
Pascal CV, qui est dignement remplacé par Alexis Sanson. Faut le dire, bonjour Alexis.
Bonjour Paul.
Ça me rappelle Paul quand tu l'avais appelé Bonjour CV ou quelque chose de
ouais, même. J'ai déjà appelé Bonjour. En tout cas, sachez que tous les messages que vous avez envoyés hier concernant le fait que vous vous ennuyez de la voix de Pascal, lui ont été retransmis via un de nos plus fidèles auditeurs. C'est même pas moi qui l'a transmis. Ça te donne-tu une idée comment je suis un animateur indigne? Mais l'un de nos plus fidèles auditeurs a envoyé à Pascal vos messages. Alors, vous pouvez nous écrire pour dire « Mon Dieu, c'est vraiment plus le fun quand Pascal est là. On s'ennuie de Pascal. Vous êtes des pas bons. On prend tout.
» On est rendu avec une carapace. Il n'y a pas de problème.
Exact. À 7h02, on va aller faire le tour des nouvelles avec Alexis.
Un homme a été arrêté pour voie de fait après avoir tenu des propos contre la communauté musulmane à la Grande Mosquée de Québec hier sur l'heure du midi. Un homme de 47 ans marchait sur le chemin Sainte-Foy avant de se diriger vers la mosquée où il s'en est notamment pris un chauffeur de taxi. Des témoins ont souligné au Conseil national des musulmans canadiens que l'homme tenait des propos haineux et anti-immigration avant de s'en prendre physiquement à la victime. La police de Québec dit traiter cet événement comme une voie de fait et non qu'un crime haineux pour le moment. Un homme en crise a été blessé par balle lors d'une intervention policière hier dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Deux policières ont dû intervenir auprès d'un homme en crise dans un dépanneur. Après avoir tenté de discuter avec l'homme, les policières l'auraient suivi jusqu'à sa résidence, là où l'individu aurait saisi un couteau et une poêle et aurait lancé celle-ci vers les policières avant de foncer vers elles avec son couteau. L'une d'elles aurait alors fait feu en sa direction. On ne craint pas pour la vie de l'homme. Le Bureau des enquêtes indépendantes a été chargé de se pencher sur les circonstances et d'analyser le travail des policières. Et le gouvernement de la CAQ doit imposer une consigne sur les bouteilles d'eau, selon les militants de la coalition Avenir Québec. Réunis hier à l'occasion du Conseil général du parti portant sur l'environnement, les membres ont été appelés à voter sur une série de mesures, dont la consigne. Et si celle sur les bouteilles d'eau a eu gain de cause, la consigne de verre n'a pas été approuvée lors du vote.
Max de 22 cet après-midi, c'est un matin un peu brumeux. Hein? Il y a un épais couvert de brouillard sur la ville de Québec à l'heure actuelle. Et qui dit brouillard, Max 22, c'est assez chaud pour le temps de l'année quand même. Il pourrait y avoir des orages qui se développent cet après-midi, mais des quantités négligeables de pluie, environ 1 mm seulement. Ciel dégagé la nuit prochaine, minimum de 8. Et la semaine qui s'en vient est assez particulière parce que c'est principalement du soleil à Mercure qui va osciller entre 15 et 18 environ de lundi à vendredi. Mais pourrait y avoir quand même des averses de manière isolée pour presque chaque journée, mais avec des quantités très faibles de pluie. Présentement, Québec, il fait 13.
Au sport, au basketball, les Raptors de Toronto ont défait les Bucks de Milwaukee 100 à 94 hier soir et ont ainsi remporté la finale de l'Association de l'Est dans la NBA en 6 matchs. Ils vont donc participer pour la première fois de leur histoire à la grande finale du circuit. Ils auront fort à faire car ils vont affronter dès jeudi les Warriors de Golden State, double champion en titre. Dans la Ligue canadienne de hockey, l'attaquant de l'Océanique de Rimouski, Alexis Lafrenière, a été nommé joueur de l'année dans la Ligue canadienne. À 17 ans, Lafrenière a conclu la dernière saison avec une récolte de 105 points en 61 matchs. Ça a été remis dans les cadres de la festivité, des festivités de la Coupe Memorial. Et d'ailleurs, parlant de la Coupe Memorial, les Huskies de Rouyn-Noranda affronteront les Moussets de Halifax ce soir lors de la grande finale. Et finalement, le Canadien de Montréal a signé un contrat de 3 ans, 1,85 million par année, avec le défenseur Brett Kulak hier.
Je salue Jean-François et tous les gens qui nous écrivent au 25-226. Mais Jean-François, c'est qui nous dit « Vous devriez inviter des copines quand Pascal n'est pas là. » C'est vrai que c'est pas très féminin comme émission aujourd'hui, mais plutôt que d'inviter des copines, on s'est dit « On va pouvoir parler de sport. » Puis il n'y a pas personne qui va nous dire « Ça m'intéresse pas le sport. » Pascal n'est pas là.
Oui, c'est ça.
Mais,
je pense qu'elle n'est pas là pour t'entendre. Pascal fait des efforts. Là, quand on parle de sport, elle commence à connaître ça.
Elle sort ses baguettes de tricot.
Oui, c'est ça.
On va attendre que ça finisse.
Non, non. On n'est pas fin.
Je fais des blagues, mais j'aurais parlé de sport de toute façon ce matin parce qu'hier, j'ai regardé le premier match de basketball complet de toute ma vie. C'était la première fois que je
regardais. Ton premier?
Oh, c'était la première fois que je regardais un match de baseball. Excuse-moi, de basketball, qu'est-ce que je raconte là? Premier match de basket à vie. Parce que essentiellement même principe que le baseball, j'aime pas assez ça pour regarder des matchs complets. Puis à date, depuis le début des séries, là, c'était comme je m'en tenais à 5-6 minutes à la fin du quatrième quart, ça me suffisait.
Ben c'est déjà bon.
Mais hier, les Raptors au complet, et quelle aventure de fou. Vraiment là,
c'est vrai.
Moi je suis un tripeux d'histoire sportive, je suis un tripeux d'événements même dans mon salon, là, mais hier c'était un événement là.
Écoute, depuis deux semaines, la frénésie, l'obsession, on dirait, des gens pour les Raptors, là, c'est même, c'est la meilleure, leur meilleur exemple, c'est toi. Tu disais, j'ai jamais suivi ça avant un match complet. Il y en a plusieurs qui sont...
Ah, oui, on est nombreux dans ma gang. Mais laisse-moi dire que j'ai réalisé que le basketball est quand même un sport extrêmement attirant. C'est-à-dire qu'il peut arriver, bien des affaires dans un match de basket. Hier, là, moi, j'étais convaincu que c'était terminé au troisième quart quand les Bucks menaient par, je pense, 15 points.
Ouais.
Et il y a eu une espèce de... Puis les Bucks ont mené tout le match jusqu'au quatrième quart, là, où tout d'un coup, les Raptors se sont mis à enfiler panier puis à faire une espèce de série de presque 18 points sans riposte. Là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Quand tu y penses, là, tu connais pas le sport comme moi, mettons. Là.
Mais écoute, Paul, hier...
Là, tu sais, c'est des allers-retours de terrain. Puis là, ben, tu as un panier d'un bord, 2 points. Un panier de l'autre bord, 2 points. Fait que ça suit comme ça. Fait que quand tu as une équipe qui réussit à se distancer de 10, 12, 14, 15 points, tu dis, ben là, c'est terminé. Là. Moindrement qu'ils jouent un peu conservateur, l'autre équipe sera jamais capable d'aligner 7-8 paniers de suite sans se faire marquer en retour. Les Raptors l'ont fait hier.
Mais c'est débile. Hier, j'étais au resto sur Quartier à Québec avec des amis. Puis juste pour te dire, le résultat du match commence à avancer vite. La serveuse est venue nous voir pour commander nos entrées. On a eu le temps de lui commander. Puis quand il est parti, j'ai levé la tête vers l'écran de télé qui était devant moi. Ça avait bondi de 10 points. J'étais comme...
Ben, ah non, non, c'est vraiment impressionnant. Donc, pour ce qui est quelle équipe mène, ils s'échange la tête. C'est vraiment impressionnant. Et c'est un sport qui a beaucoup de faits saillants aussi. Je l'ai constaté hier, là. Non, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui reprochent un sport comme le soccer, par exemple, là. Tu sais, le soccer, c'est plate, ça finit 1-0.
Il n'y a pas autant de buts, il n'y a pas autant d'occasions que tu peux te lever puis applaudir.
Exact.
T'sais, des matchs de basket, t'as de la musique.
À moins, honnêtement, que tu aies joué au soccer. Si tu as joué au soccer, là, il va y avoir des affaires que tu vas saisir, que peut-être pas tout le monde voit. Tu vas dire, hey, t'sais, la passe était longue, tel contrôle, c'est impressionnant. Mais c'est pas vrai qu'à la télé, c'est impressionnant. C'est juste quand t'essayes de le faire pour vrai, tu te rends compte que c'est difficile. Alors, c'est pas un sport qui est si flamboyant que ça, même si j'adore regarder des matchs de soccer.
Mais c'est même ce que me contait Elisabeth dans le show du matin cette semaine avec Sylvain Bouchard. Elle me disait, j'ai assisté à un match des Raptors, puis elle dit, c'est fou l'ambiance que là, pendant tout le match, il y a de la musique dans l'aréna. Tu sais, c'est rare qu'on voit ça, même au baseball, ou qu'on voit ça au football, de l'ambiance comme ça. C'est sûr qu'à la télé, c'est un peu différent. Mais de voir une équipe comme ça, c'est la première fois que les Raptors s'en vont en finale comme ça.
Puis tu sais, j'ai regardé un seul match, puis j'avais l'impression d'avoir suivi l'équipe pendant la dernière année complète. Tu avais le petit joueur Fred Van Vliet, que sa blonde vient d'avoir un enfant, puis là, il était fatigué parce qu'il avait voyagé beaucoup dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Puis en plus, ça allait pas bien sa saison, à la fin de la saison. Là, hier, il rentrait tous les 3 points. Tu te disais, mais qu'est-ce qui se passe avec Fred Van Vliet? Je ne sais pas c'est qui ce gars-là, je sais pas d'où il vient, mais... C'était le travail d'ailleurs des gars d'RDS était super bien fait pour ça, mais Kawhi Leonard, le sauveur à qui il y a une transaction des Spurs,
ça,
de San Antonio.
Ça.
Kyle Lowry, qui est l'ADN du club, qui est là depuis des années, qui avait toujours perdu en série, à qui on avait toujours reproché d'être le responsable de la défaite en série parce qu'il se levait pas. Hier, il a joué un fort match. Écoute, je te dis, j'avais l'impression en regardant un seul match que je connaissais les histoires des joueurs, les histoires du club. C'est ça qui est trippant.
T'as-tu vu les gens dans les rues à Toronto avant le match, même après le match? Je voyais ça sur les faits saillants. Il y avait du monde, les rues étaient bondées à Toronto. C'était écœurant.
Ah oui, oui.
On dirait qu'ils venaient de gagner le... Tu sais, là, ils ont gagné le championnat. Ben, ils ont pas gagné le championnat, mais ils s'en vont en finale. Mm. On dirait que c'est comme s'ils avaient déjà gagné la finale.
Mais les partisans à Toronto sont très, très demandants. Puis moi, je trouve ça fascinant de voir. Puis que ce soit, tu sais, on parle là de basketball, mais Toronto en soi est quand même une ville fascinante dans le sport. Et que ce soit les Maple Leafs de Toronto qui ont, ben là, cette année, avaient une bonne équipe, mais qui ont pas réussi à se rendre au bout. Quand tu parles des Blue Jays de Toronto, les partisans à Toronto sont très, très demandants, sauf qu'ils ont pas toujours été très, très, très gantés, là. Souvent, les équipes vont être bonnes, mais... Les Maple Leafs de Toronto, combien de fois qu'ils sont pas rendus, combien d'années qu'ils sont pas rendus en finale? Les Raptors, on est exigeants aussi envers eux. Oui. Et là, c'est la première fois de leur histoire là, qu'ils vont participer à la finale, les Raptors. Donc, pour une ville qui est aussi exigeante que ça, à Toronto, c'est quasiment un soulagement. Là.
C'est les Warriors de Golden State. Golden State.
Ouais. Ça sera pas facile, ça.
L'adversaire qui les attend en grande finale, Steph Curry, Kevin Durant, c'est une dynastie. C'est quoi? C'est leur cinquième finale de suite.
Mmh. Oui, exact. C'est dans le monde du basketball, tu dis, garde, c'est sûr que les Warriors, cette année, s'ils gagnent, c'est quasiment sûr à 95% qu'ils vont gagner. Mais
il n'y a rien de certain,
on
Kevin.
Se croise les doigts.
Hey, Kevin, rappelle-toi du Lightning de Tampa Bay. Il était dominant en saison. Ils n'ont pas réduit.
On est tous, tout le Canada est derrière les Raptors de Toronto. Il y a Pierre qui dit, je vous imagine faire un show de gars avec le laisser-aller d'une gang de gars ensemble avec des grosses bières puis des chips. Pourquoi personne n'a pensé à porter des grosses bières, donc? Ça aurait dû être ma job, ça.
Ah, ben, c'est parce que tu l'as pas demandé. Il y a une caisse de cachet en arrière.
Hein?
Ouais.
OK, c'est pas l'heure de la pause, mais inquiétez-vous pas.
À 7h10.
Non, il est un petit peu tôt, Il est cependant l'heure d'aller faire le tour de la nouvelle qui nous a marqué ce matin, Kevin. Je vais te laisser commencer parce que, honnêtement, j'hésitais entre rire et pleurer quand j'ai vu ça.
Écoute, on a vu ça hier à la fin de l'émission, puis je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça, Paul. Je trouve ça tellement... En tout cas, je vais t'en parler, mais c'est par rapport au pape François. Bon, hier, l'interdit de l'avortement a dit que ça regardait l'humain et pas le religieux et qu'il comparait ça un peu à l'équivalent du recours à un tueur à gage.
Ouais.
C'est juste pour te dire un discours très 2019.
C'est brillant, ça, oui.
Écoute, puis je vais lire ce qu'il a dit. Est-il licite d'éliminer une vie humaine pour résoudre un problème? Est-il licite d'embaucher un tueur à gage pour résoudre un problème? N'allez pas sur le religieux pour quelque chose qui regarde l'humain. Ça, c'était pendant un colloque. Il s'adressait devant des gens concernant l'avortement thérapeutique. Quand j'ai lu la nouvelle hier, je me suis dit, honnêtement, on est-tu vraiment encore à ce point-là? Tu sais, arriéré.
Ben, parce qu'il y a des affaires qui marchent pas dans le discours du pape François.
Exact.
Genre, quand il dit, allez pas sur le religieux pour quelque chose qui regarde l'humain, mon problème, c'est que l'actualité nous dit absolument l'inverse de ce que dit le pape François. En Alabama, là, et prochainement au Missouri, là, l'argument qui revient le plus souvent pour justifier les lois anti-avortement, là, ou les lois extrêmement sévères sur l'avortement, là, c'est si Dieu a mis une vie dans ton ventre, c'est pour qu'elle puisse naître. Hein? L'être humain ne devrait pas avoir droit de vie ou de mort sur un être créé par Dieu. Dieu, aux dernières nouvelles, c'est un petit peu religieux, ça, quand même. Là.
C'est ça, j'entends l'argument, tu sais, je l'entends, mais même, c'était pas en Alabama que, justement, avec l'avortement comme ça, même s'il y avait viol ou peu importe, il disait, écoutez, c'est interdit pareil.
Viol, inceste, nomme-les les raisons, là. Puis au-delà de ça, tu sais, on devrait même pas se rendre à ces raisons extrêmes-là. En tout cas, mais écoute, j'invente rien, là. Quand la gouverneure de l'Alabama... Madame Kay, il me semble, son nom m'échappe, mais quand la gouverneure de l'Alabama a passé sa loi anti-avortement, elle est mieux communiquée, comme ça se fait tout le temps. Et dans le communiqué, tu pouvais lire « Toute vie est un cadeau sacré de Dieu ».
Alors ça, c'est pas religieux.
Ça, monsieur le pape, là, c'est religieux. Non. Ça, c'est strictement religieux. Les raisons sont éminemment religieuses. L'autre affaire, c'est que le pape, il dit, est-ce que c'est licite d'éliminer une vie humaine pour résoudre un problème? Est-ce que c'est licite d'embaucher un tueur à gages pour résoudre un problème?
Écoute, la comparaison, moi, je la trouve excessive.
D'abord, un fœtus d'une couple de semaines, là, puis un humain qui est pleinement conscient, une famille, un entourage, des proches, on s'entend que c'est pas la même affaire, là.
Qui respire, tu sais, que je veux dire, qui a une conscience.
Tu sais, honnêtement, là, l'amalgame entre l'avortement puis le tueur à gages, là, moi, ça me donne froid dans le dos.
Je l'ai pas compris. Puis même, je me posais la question, tu sais, c'est aussi pertinent de tenir autant d'importance au discours du pape en 2019?
Oh, non.
J'ai l'impression
moi,
que...
Moi, là, je vais te dire...
Tu te rappelles-tu même...
Non, mais il y a des pays où tu sais, les gens sont plus croyants puis plus pratiquants.
Ouais. Ah, puis je respecte les gens qui croient encore. Ça, c'est bien parfait, mais je veux dire, de là à ce que quelqu'un qui a autant de pouvoir dise des choses comme ça... Au monde entier. Tu sais, même, je sais pas si tu t'en rappelles, l'année passée, au mois d'août, il avait tenu un discours sur les homosexuels en disant que à la naissance ou même en jeune âge, si tu vois qu'il y a des tendances homosexuelles, ça a besoin d'aide psychiatrique.
Ouais, mais le pape est devenu un personnage qui sert à faire jaser. Tu l'écoutes, là, puis il va te sortir une déclaration. Là, puis là, tout le monde va dire, tu sais que ça sort.
Denise, au 25-226, nous dit, il n'y a pas eu les mêmes cours d'éducation sexuelle que moi. Aux dernières nouvelles, c'est pas Dieu qui, selon les cours, qui met un enfant dans le corps de la femme.
C'est hein? Ça.
Ben, Denise, la gouverneure de l'Alabama, elle a trouvé que une femme qui est enceinte, là, elle a reçu un don de Dieu. T'sais, elle l'a dit.
K.I.V.
Tu sais, la vie, c'est un don de Dieu. Alors, c'est ces gens-là qui décident là, pour certaines femmes qui, elles, peuvent avoir vécu des cauchemars. Là. Écoute, je suis allé me promener sur des sites pour essayer de trouver des arguments pro-vie. Donc, mm-hmm. Des arguments contre l'avortement. Puis ça m'a fâché, fait que je suis parti. Puis dernière affaire sur le pape, là, qui dit que plutôt que de proposer l'avortement thérapeutique, il faut créer des réseaux d'amour.
Oui,
pour éviter que la peur de la maladie et de la souffrance ne condamne les familles à la solitude. Des réseaux d'amour, là. Ça part mon radar à bullshit.
Hey, ça, c'est ça, fort, là.
Là, hier, je lisais ça, puis ça spinait, là.
Écoute-moi, tu crois que quand j'ai lu ça, j'entendais ça?
Des réseaux d'amour.
J'entendais du silence.
Faut créer des réseaux d'amour.
Merci. Merci, pape.
Intéressant. Pour ma part, je veux revenir sur l'incident à la mosquée qui est survenu hier pour différentes raisons, parce que je m'imagine, là, tu l'as raconté tantôt, Alexis, mm-hmm. là, en gros, là, mais c'est un gars là, dans la quarantaine qui passait par la mosquée, qui s'est présenté là, qui a commencé à injurier, ben, invectiver les gens de la communauté qui étaient là, selon ce qui a été rapporté, notamment là, en disant là, ah, retournez dans vos pays, dans votre pays, ou vous n'êtes pas chez vous, quelque chose comme ça.
Non, il demandait les passeports des gens, c'est semble-t-il.
Bon, vous comprenez le principe. Il y aurait eu altercation physique au moment où une personne de la communauté serait allée pour calmer le gars. Altercation physique, appelle la police s'en mêle. Ils ont arrêté le gars. Pour voie de fait, ils traitent pas ça comme
c'est
un
pas
acte.
Un acte
haineux. Haineux, du moins pas pour l'instant, mais tu sais, c'est le genre d'affaires avec lesquelles ils sont tout le temps super prudents parce que c'est pas simple à déterminer. C'est
tout le temps, on dirait sur la limite, tu sais, tu dis, ça va-tu vraiment aller jusque-là?
Ben, c'est pas simple à déterminer un acte haineux, là. C'est ça l'affaire. Mais j'ai différentes choses à dire par rapport à ça. La première, c'est que je me suis surpris à aller visiter la section commentaires du Journal du
oh
Québec.
Oh mon Dieu.
En dessous de la publication. Ouais, je sais, j'aurais pas dû, mais j'ai été agréablement surpris.
Ah oui?
Ouais.
Mais c'est vrai?
Ben, si je te le dis, ça doit pas se passer.
Non, non, mais c'est parce que...
C'est vrai?
Non, mais je sais pas, mais c'est parce que... As-tu vu les réactions à la base, à la publication?
Je suis allé lire les...
C'est non, ça mais la majorité, c'est des gens qui rient. Tu sais, quand tu peux liker, adorer, puis...
C'est ça qui est écrit sur la feuille.
Excuse-moi, on va te laisser
dans
aller.
Dans ce que je lisais des commentaires, il y avait, à la base, à peu près, je dirais, un 10% de gens... Puis, gars, là, mes calculs sont de grossières estimations. Hein. Mm-hmm. Mais il y avait à peu près un 10% des gens qui disaient, première affaire, puis c'est une opinion avec laquelle je suis d'accord, c'est le témoignage d'un seul gars qui est rapporté par le journaliste, en l'occurrence Mohamed Labidi, qui était même pas sur les lieux de l'altercation. Alors ça, honnêtement, comme travail journalistique, mettons 5 sur 10, là, tu sais, parce que, honnêtement, moi, je suis intéressé par cette histoire-là, je trouve que c'est une nouvelle, c'est correct qu'ils soient rapportés dans les journaux, mais il aurait fallu être capable de parler aux gens qui étaient sur les lieux, parce que là...
Qui ont vu le suspect, tu sais, qui ont été témoins.
Puis autrement, il aurait fallu, d'une certaine façon, avoir deux visions des choses, dans le sens où, c'est pas facile, tu sais, de demander au gars qui vient de se faire arrêter, qu'est-ce qui s'est passé selon toi, mais là, on a juste une seule vision, puis effectivement, ça, c'est un peu fatigant. C'est à peu près 10% des commentaires qui rapportaient ça. Ensuite, t'avais, mettons, 20% des commentaires à peu près qui étaient proprement racistes. Retournez chez vous, les musulmans vont nous envahir, ils vont storer la charia, ils se victimisent tout le temps. Gna gna. Ça, c'était à peu près 20% des commentaires. C'est 1 sur 5, grosso modo. Ensuite, t'avais à peu près le tiers des commentaires, 30%, que c'était des gens qui disaient qu'ils étaient gênés de lire des commentaires racistes.
Ben oui.
Fait que ça, tu vois, t'avais plus de gens qui disaient... C'est vraiment gênant de lire les racistes que de gens qui disaient « Nous, on n'aime pas les musulmans », mettons. Puis, écoute, quasiment, moi, j'ai mis 40% là, pour que ça fasse des beaux chiffrons, là, mais quasiment la moitié des commentaires en dessous de la publication sur Facebook, c'était des gens qui faisaient des jokes. C'était des gens qui écrivaient du genre « Hey, en tout cas, dommage que le Canadien fasse pas une série. Ouais, moi, je dis Boston en 7. » Ah, oh, ça a l'air demain, il annonce de la pluie. Tu sais, il faisait des commentaires qui avaient rien à voir avec la publication. En guise de blague, là, c'était assez évident que c'était de l'humour. Puis là, je regardais ça, je me disais, waouh, les gens sont vraiment hot. Tu sais, ils sont vraiment brillants parce que t'en as tout le temps une poignée de monde qui font des commentaires désobligeants, là, que ce soit des commentaires racistes ou n'importe mais quoi.
J'essaie d'imaginer.
Ah, Caroline Néron fait faillite, les gens vont commenter sa publication. Ouais, mais c'est une niaiseuse parce qu'elle est blonde. Là, tu fais comme, ben ouais, toi, t'es un niaiseux.
Je sais pas si c'est quelqu'un derrière son ordi qui, à chaque fois, reçoit tout le temps une notification puis il est prêt, là. Puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle, il fait comme, yes, sir, on va commenter. Ah ouais.
Ça donne cette impression-là, mais moi, j'étais vraiment ravi de voir que, en tout cas, je sais pas si c'est une tendance, mais hier, sous la publication de l'incident qu'il y a eu à la mosquée, c'était tangible. Les gens se payaient la gueule, littéralement, avec beaucoup de sarcasme, se payaient la gueule des gens qui font des commentaires racistes. Puis ça, c'est le genre d'humour qui me fait rire. L'autre affaire que je veux te dire par rapport à ça, c'est concernant un article qui a suivi à la suite là, de cet incident, incident haineux. Moi, je vais dire que c'est haineux, même si, là, aux yeux de la loi, on ne le sait pas. La police ne l'a pas déterminé encore. Là. Ouais. Mais il y a un article dans le Journal de Québec qui est d'ailleurs disponible ce matin, si vous allez voir, là, qui dit que les crimes et incidents haineux, comme ce qui est survenu hier, seraient jusqu'à 50 fois plus répandus que le portrait qui est dépeint dans les statistiques officielles.
Ça veut dire que c'est pas tous les incidents qui sont rapportés officiellement?
C'est ça, exactement. Donc, selon les statistiques officielles, il y aurait un nombre X d'incidents haineux. Et là, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence a réalisé une espèce de... Écoute, j'allais dire une étude, mais...
Comme un Vox Pop?
Une enquête, ouais. Mais par une firme qui s'appelle Vox Pop Labs. Auprès donc de 1800, plus de 1800 Québécois en 2017. Et selon leurs chiffres, eux autres qui avaient obtenu, il y avait 50 fois plus d'incidents et de crimes haineux que ce qui est rapporté dans les statistiques officielles. Or, là, je me suis dit, moi, j'ai tout le temps tendance à me méfier des chiffres un peu gonflés. Dès que tu as une statistique qui est comme trop éloquente puis trop grosse, là, c'est à ce moment-là, normalement, que on devrait se dire, OK, c'est quoi la méthodologie de cette affaire-là? Puis, je veux pas me prononcer sur y en a-tu, y en a-tu pas des gestes haineux. Je sais pas, j'ai pas les statistiques. Ouais. Sauf que, quand je vois ces chiffres-là, qui disent qu'essentiellement, au cours des trois dernières années, 0,7% des répondants à l'échelle provinciale, là, donc c'est 48 000 personnes adultes à l'échelle provinciale, affirment avoir été victimes de crimes haineux et environ 3% pour des incidents haineux. Alors, t'as 48 000 adultes qui disent qu'eux autres, ils ont vécu des incidents haineux. Puis il y en a 855 seulement qui ont été rapportés aux autorités policières.
Mais ces incidents haineux, c'est, je veux dire, c'est quoi la gravité? Ben, c'est ça. Ça part-tu des insultes à aller à la violence?
C'est ça la question. Comment tu définis un incident haineux? Hier, il y a un gars qui, selon les témoignages, se présente à la mosquée puis insulte le monde en disant « Retourne dans ton pays, les musulmans, vous êtes des ci, des ça, passeport, moi je suis chez nous, bon. » Ça, selon l'interprétation Charon 2019, c'est raciste. Qu'est-ce qui est haineux, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est pas simple à déterminer, là. C'est vraiment pas si simple. Tu sais, ça m'a rappelé une espèce d'étude qui avait été faite à l'Université Laval. Je dirais, là, 2 ans, mais c'est peut-être l'an dernier, là. Je me souviens pas exactement quand, mais c'était une étude, donc, qui disait que quelque chose comme le 2/3 des étudiantes ont été victimes de comportements inappropriés de la part des gars.
Ouais, oh oui.
Là, quand tu regardais ça, tu te disais, OK, mais c'est quoi les comportements inappropriés? Parce que les 2/3, là, c'était peut-être pas ça le chiffre, mais c'était vraiment un chiffre très, très important.
Il y a plus
que
la moitié.
Ah, c'était vraiment un gros chiffre. Là, tu me disais, voyons, si bol, ça se peut pas, tu sais. Là, tu regardais, puis des fois, c'était un regard mal placé, tu sais, une remarque. Là, t'es comme, oui, mais attends, là,
c'est parce qu'il y a de l'interprétation.
Non, mais tu sais, il y a de l'interprétation là-dedans. Il y a une part de jugement. T'sais, quelqu'un qui se fait traiter de maudit musulman, qui se fait dire de retourner dans son pays, pour moi, il n'y a pas de doute que c'est raciste. Mais quelqu'un qui se fait traiter de trou de cul, puis que lui, il se dit, il m'a traité de trou de cul parce que je suis arabe ou parce que je suis d'une confession religieuse autre ou parce que je suis un immigrant, ben là, je sais pas, t'sais, c'est peut-être parce qu'effectivement, c'est un raciste, mais c'est peut-être aussi parce que la personne qui a reçu l'insulte, elle la méritait. T'sais, tu comprends? Il y a une part d'interprétation, là. Mm-hmm. Fait que là, pour dire que les chiffres sont... Le nombre d'incidents haineux est 50 fois plus élevé que ce qu'on a dans les statistiques officielles. Moi, je veux juste soulever un petit bémol. Là. Juste soulever un petit bémol. Vous vous souvenez quand il y a eu l'incendie de la voiture de M. Labidi, qui est le président de la mosquée, ouais, à Québec, là? D'emblée, tout le monde est monté aux barricades pour dire « incident haineux, crime haineux, on l'a ciblé parce que c'était un musulman. » Or, on s'est rendu compte que c'était un pyromane, tu sais. Là, dans ce cas-là, je me souviens que il y avait eu des histoires comme quoi, finalement, c'était un gars qui avait des problèmes de santé mentale, un pyromane, machin. Mais donc, il y a toujours eu ces deux espèces de vision-là. C'était-tu ciblé sur le monsieur en tant que tel? Ou le hasard a fait que ça avait vraiment l'air d'un geste haineux, puis ça ne l'était pas? Tout est dans l'interprétation. C'est ça mon point. À part le basket, Alexis.
Oui.
Y a-tu une nouvelle en particulier dans le monde du sport qui t'a...
Il y a quelque chose que j'ai trouvé fascinant ce matin. Quand j'ai ouvert le journal, j'allais dans la section des sports, et il a fallu que je me rende à la page 17 en partant de la fin, dans la section des sports,
ouais,
pour arriver à la nouvelle sur la signature de Brett Kulak, du Canadien de Montréal. Oui. Et je me suis dit, wow, on est en train de faire une transformation des intérêts sportifs au Québec pour que, enfin, la nouvelle du Canadien sur la signature d'un défenseur se ramasse en 17e page des sports. J'ai l'impression que il y a deux ans, ça aurait fait la une du journal ou la une des sports à tout le moins, même si c'est le défenseur de profondeur du Canadien qui allait signer. Mais là, ce matin, on parle bien plus des Raptors de Toronto qui se ramassent en finale que de la signature de Brett Kulak. Et ça, pour moi, j'ai l'impression qu'on commence à s'intéresser davantage à d'autres sports que le hockey.
Non. Si c'était arrivé pendant la saison du Canadien...
Ah, ben là, c'est différent.
Brett Kulak aurait été avant les Raptors.
Ça, je suis d'accord avec
même
toi.
Même si la finale de basket concordait avec... Mettons, arrivé au mois de janvier, par exemple. Là,
ouais.
Pas mal sûr que Brett Kulak serait passé avant les Raptors.
On dirait, je suis pas sûr. Brett Kulak, là, c'est pas comme si on avait signé un joueur comme Weber.
Ouais, mais tu sais, quand il y avait eu les ratings là, les joueurs sur le site le jeu là, NHL, là, ouais. Il avait fait ça à TVA Sport, puis il s'était mis à parler de ça en ouverture de bulletin à un moment donné. Là, parce que les joueurs avaient reçu leur cote, puis tel joueur du Canadien était moins bien classé que lui. Puis, tu sais, c'est. On parlait de ça parce qu'il n'y avait rien dans l'actualité sportive avec le Canadien, il n'y avait rien à parler. Mais là, Brett Kulak se ramasse un peu plus loin. Puis bref, je me disais, bon, ben est-ce qu'on va parler un petit peu d'autres sports que du hockey cet été? On verra, peut-être que je vais me tromper, peut-être que je vais avoir tort. Mais en attendant, ça va quand même me permettre aussi de vous parler de canoë-kayak. Parce que Laurence-Vincent Lapointe, l'athlète de Trois-Rivières, a fini première hier en C1 sur 200 mètres. Et ça, c'est un sport dont on ne parle pas. Et Laurence-Vincent Lapointe...
Hey, je veux pas insulter les gens qui font du canoë-kayak. Là. Moi, je suis un fan de soccer de toute façon.
J'en ai fait longtemps. Fait que fais attention à ce que tu dis.
Mais non, mais c'est toi qui l'as dit. T'as dit c'est un sport dont on parle pas.
Ah, oh, absolument. Quoi?
Je m'opposerai pas nécessairement à ça. On prend une courte pause, on revient.
Que Québec se lève.